RCF.
Les 10 commandements, c'est le sujet de nos émissions et on se penche dans l'Ancien Testament, comme toujours dans cette émission, avec à la fois le livre de l'Exode au chapitre 20 et le livre du Deutéronome au chapitre 5, puisque ce sont dans ces deux chapitres que nous retrouvons les 10 commandements et nous le faisons avec vous, Laetitia Kelmen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici enseignante à l'école cathédrale, ce qu'on appelle le collège des Bernardins. On entend un petit peu les salles de classe, les élèves s'agiter. Je sais qu'il y a des séminaristes qui suivent le cours à côté. C'est ici aussi que vous enseignez. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous êtes penchée sur ces 10 commandements. Alors, on poursuit cette découverte des 10 commandements parce qu'on avait commencé la semaine dernière et nous arrivons ici au verset 8. En tout cas, un extrait de ce chapitre 20 par Hugo Vincent.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est intéressant qu'on nous commande de nous reposer. Oui. Que vient nous dire Dieu ici ?
Oui, oui. Alors, le sabbat fait vraiment référence dans la Genèse au 7e jour. C'est le jour où Dieu se repose. Je trouve que le verbe français « reposer » est assez intéressant. Dieu se pose à nouveau dans la création. Ce jour-là, il ne crée pas quelque chose de nouveau, mais il continue à donner la vie. Et donc, dans la tradition juive, le sabbat, qui correspond à notre samedi, en fait, est appelé à être sanctifié. Donc, le peuple juif le célèbre, il fait mémoire de la création. Et selon le Deutéronome, c'est pas simplement de faire mémoire de la création, mais aussi de la libération d'Égypte. Alors, pourquoi ? Concrètement, c'est pas facile de se reposer. Je sais pas vous, Madeleine, mais je trouve que se reposer, c'est pas se distraire. On peut se distraire, mais on peut ne pas se reposer. Comment est-ce qu'on se repose réellement ? Et selon la sagesse juive, il s'agit de contempler la présence de Dieu. C'est parce que c'est cette présence-là qui nous vivifie, qui nous redonne la vie. Donc en fait, c'est un moment de gratuité, c'est un moment où je m'arrête. Voilà, je m'arrête pour reconnaître le don que Dieu me fait de la création, de mes proches. Et donc, c'est quelque chose que je célèbre. Je célèbre la gratuité, en fait. Je célèbre le don de Dieu. Alors ça, c'est ce qui est vécu dans la tradition juive. Alors nous, on est appelés à le vivre plutôt le dimanche, le jour de la résurrection. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas du mystère pascal, Jésus est mis au tombeau le vendredi, juste avant le sabbat. Ça veut dire qu'il entre dans le repos par excellence. Jésus va se reposer au cœur de la création. Il est déposé dans un tombeau, il est au cœur de la terre. Et puis il y a des icônes qui nous montrent Jésus tirant Adam et Ève. Il va rejoindre la création pour lui donner la vie. Voilà. Le repos de Jésus est source de vie. Donc nous, chrétiens, on ne célèbre pas le sabbat comme le peuple juif, mais on le célèbre pleinement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qu'on célèbre particulièrement le dimanche, en tout cas en communauté, dans nos paroisses. Et donc l'enjeu dans l'Eucharistie, c'est à travers cette vie que Dieu nous donne, à travers sa présence réelle, de trouver le vrai sens du repos. C'est le lieu de ma résurrection, c'est le lieu où je suis sauvé, c'est le lieu où je reçois la vie. Et je crois que le drame, à mon avis, un des drames, je dirais, dans nos communautés, c'est qu'au fond, souvent comme chrétien, et je suis la première à confesser ça, on coche la case messe. Vous savez, il faut aller à la messe le dimanche, donc on coche la case messe. Mais est-ce qu'on célèbre vraiment l'Eucharistie ? Si on célébrait vraiment l'Eucharistie, il faudrait faire une fête, il faudrait se reposer, il faudrait célébrer non seulement la gratuité de la création et de la libération d'Égypte, mais surtout le salut que le Christ nous offre, en fait. Et c'est ça, au fond, qui nous libère. C'est ça qui me permet aussi de me réajuster. Moi, enfin, on est tous tentés le dimanche, vous savez, après la messe, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas encore fait pendant la semaine? Et comment est-ce que je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait? Et donc, finalement, on ne s'arrête jamais. Mais ça montre à quel point on est des idolâtres, à quel point on est esclaves de nos propres activités.
Mais vous proposez quoi, Laetitia Kalman? Comment très concrètement faire vraiment vivre le repos?
Oui. Alors, si on se réfère à ce que vit le peuple juif, donc les familles juives, c'est un temps de gratuité pour aussi célébrer la création. Donc, on voit à Jérusalem, c'est assez beau, dans les quartiers juifs, il y a un silence. Les familles se promènent, explorent la création. Donc, il y a ce rapport à la création. Je reçois la vie de Dieu à travers cette création, mais aussi à travers mes proches, dans mes relations familiales. Alors, nous, chrétiens, moi, ce que je rêve, mais à mon avis, c'est de l'ordre de l'utopie, peut-être que ce sera à la fin des temps, c'est que dans les paroisse. Vous savez, après la messe, il y a une fête pour toute la communauté.
On fait la fête alors. Oui, voilà. C'est vrai, c'est un jour de
en
fête.
En fait, la veille, tout le monde prépare ses petits plats, etc. Chacun apporte quelque chose. Et puis on invite surtout le curé qui, en général, célèbre la messe de 10h, puis célèbre la messe de 11h, puis célèbre la messe de 10h. Non, on l'invite aussi à se reposer avec le peuple de Dieu. Et en fait, je pense que le plus beau repos, c'est d'abord le lieu de la célébration, donc la célébration eucharistique qui se prolonge à travers les liens fraternels. Se réjouir que l'autre soit. Si j'ai reçu la grâce du salut, j'ai envie de lui communiquer et j'ai envie de recevoir cette grâce de salut de lui qu'il a reçue à la célébration. Donc c'est quelque chose qu'il faut prolonger en fait. Il n'est pas normal qu'à la fin de la messe, chacun aille chez soi. Il y a un vrai individualisme dans nos paroisses. Et donc je crois que le repos est quelque chose qu'il faut retrouver à travers la fête, à travers la gratuité. Et je crois que même pour la société, vous savez, on est dans une société marquée évidemment par une crise climatique, une crise écologique très profonde, à cause de son hyperconsommation. Mais c'est lié à une société qui ne s'arrête pas. À Paris, tout est ouvert le dimanche. L'homme s'épuise et il épuise la terre. Si on retrouvait le bon sens d'un jour de repos, ça nous est révélé, c'est quand même un commandement, quoi. C'est un commandement qui a fait naître quand même une belle sagesse dans le peuple juif et qui nous aide à nous libérer de notre activisme et donc du coup à retrouver le bon sens par rapport à la réalité qui nous entoure. Vous savez, si on est trop fatigué, qu'est-ce qui se passe? Les relations s'abîment. Vous savez, quand on est trop on a du mal à se supporter soi-même, on a du mal à se supporter les plus proches, les enfants, l'époux, les parents, etc. Ça devient compliqué en fait. Le repos est un ressourcement qui me permet ensuite d'entrer dans la suite des commandements. Les commandements qui concernent mes parents, les prochains, etc. Donc en fait, ce jour de repos que nous fêtons grâce à l'Eucharistie en termes d'action de grâce, on fait mémoire du salut qui nous est pleinement donné dans le Christ. C'est une célébration qui est amenée à être complètement revisitée en fait.
Alors, je voudrais vous faire réagir à ce que disait le pape François. Il a proposé une série de catéchèses en 2018 sur ces 10 commandements. Donc, il les a étudiés les uns après les autres au fil de ces catéchèses. Et sur ce verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier », il y a 2 points. Le premier, on vient de l'évoquer, il explique que le repos, il y a le faux et le vrai repos, et le faux repos, c'est celui qui voudrait qu'on soit dans l'évasion. Et puis, il évoque un deuxième point, c'est le repos avec soi-même, faire la paix avec soi-même, avec son histoire, non pas en la changeant, non pas en se projetant dans quelque chose qui ne serait pas réalisable ou qui ne serait pas nous-mêmes, mais vraiment de se réconcilier avec son histoire, cette paix avec nous, ce repos avec nous-mêmes. Est-ce que vous le comprenez aussi, vous ?
Oui, oui. À partir du moment où le sabbat qui s'accomplit dans notre dimanche est un jour d'action de grâce. Ça veut dire qu'il faut pouvoir reconnaître l'action de la grâce, en fait.
L'action de grâce, c'est une traduction de l'Eucharistie.
L'Eucharistie, c'est l'action de grâce par excellence, en fait. Il n'y a pas de plus grand don que le Christ qui donne sa vie pour nous. Et on est appelé à vivre de cette vie. Donc, comment est-ce qu'on la reçoit et comment est-ce qu'on la reconnaît dans la présence de l'autre? Donc ça, c'est quand le pape François parle de l'engagement. Le rapport à l'autre, c'est pas je ne l'aime pas seulement parce qu'il a les mêmes intérêts que moi, parce qu'il peut être utile dans tel ou tel domaine dans lequel je m'investis. Non, je l'aime parce que non seulement il est voulu pour lui-même, il est créé, mais il a été sauvé par le Christ, en fait. Et là, il y a un engagement très grand, en fait. Donc, la fraternité, la vie communautaire, elle est animée par ça. Alors, vous parliez du repos par rapport à nous-mêmes. Eh bien, il me semble que c'est quand je m'inscris dans cette action de grâce que Dieu me révèle pleinement dans l'Eucharistie, que je peux aussi rendre grâce pour ma vie, en fait. Je reçois la vie de Dieu. Mais pour ça, il faut s'arrêter. Et parce que c'est vrai que quand on ne s'arrête plus, eh bien, on a beau dire, oui, je suis chrétien, je m'engage à fond, et on voit bien comment des personnes engagées dans la pastorale, que ce soit des prêtres, des laïcs, etc., se donnent à fond jusqu'à s'épuiser, en fait. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on est chrétien et fait pour l'engagement, pour la mission, mais la mission, elle suppose le recueillement, en fait. Si je ne reçois pas la vie de Dieu, si je ne reçois pas le salut, qu'est-ce que je peux donner, en fait? Donc, il y a un moment où il est bon d'aller se promener en forêt, de trouver son lieu où je me recueille et où effectivement je me réconcilie avec moi-même. Vous savez, c'est quand on prend un peu de recul qu'on peut relire sa semaine, qu'on peut relire le mois qui s'est déroulé. Si je ne prends jamais de recul, eh bien, je suis dans un activisme qui, à un moment donné, va arriver à, comment dire, à un non-sens, quoi. Je vais perdre le sens de ce que je fais. Pour garder le sens de ce que l'on fait, il faut de temps en temps prendre du recul. Et c'est ce qui nous permet de continuer à voir les choses en tant qu'elles sont bonnes et de garder un certain sens du bien commun. Au niveau même de la société, hein, c'est fondamental, en fait, cet espace de repos, de célébration.
Mais est-ce que ce repos dont vous parlez, il est vraiment pour tous? Et comment le trouver quand ça semble moins naturel que dans des périodes où tout va bien et finalement le repos, ce serait de s'écarter un petit peu? Mais comment faire pour trouver le repos quand on est soi-même tourmenté, préoccupé?
Alors, quand on lit le commandement, on voit que le repos, il embrase beaucoup de monde, hein, il embrase toute la famille, donc toute la maison, au sens juif, est concernée, donc toute la famille, mais aussi toute la création, hein, on voit l'âne, le bœuf, etc. Hein, donc, c'est vraiment, voilà, tout ce qui est autour de nous, on l'embarque dans ce repos. Et là, il y a quelque chose de très beau, en fait, parce que quand je parlais tout à l'heure du repos qui était nécessaire pour la gratuité, pour les relations, en fait, quand on est préoccupé, quand on a quelque chose de lourd à porter, ce qui va nous aider, bah, c'est de pouvoir le vivre avec d'autres, en fait, pouvoir le partager. Hein. En fait, c'est ça la communauté. Hein. Est-ce que voilà, j'apprends que voilà, je suis enceinte de mon premier enfant, j'apprends qu'il est porteur d'un handicap. Est-ce que j'ai envie d'aller rendre grâce à l'Eucharistie? Non. Mais peut-être que c'est en y allant, peut-être que je vais rencontrer une autre famille qui a traversé la même réalité, peut-être que je vais pouvoir vivre les choses autrement, en fait. Je trouve que, en fait, pour moi, cet espace de repos et d'action de grâce, c'est une clé pour la fraternité, en fait. Parce que quand on va pas bien, pour plein de raisons, hein, notre risque, c'est quand même de nous isoler. On se dit, ben, je vais pas emmerder les autres avec ça. Enfin, en gros, c'est ça. Et puis surtout, j'ai pas envie que les autres m'embêtent avec ça, en fait.
Donc, c'est pas un bon repos, celui-là. C'est un faux calme, en quelque sorte.
Ça peut l'être. Hein. Alors, parfois, il est bon, hein. Il est bon, parfois, d'avoir des moments de solitude, mais pas d'isolement. Vous voyez, c'est très différent. Ouais. Parfois, on a besoin de solitude pour se dire, oulala, là, ce qui m'arrive, j'ai besoin de me retrouver, mais alors face à Dieu. Mais pas en s'enfermant. Parce que quand on s'enferme, eh bien, je pense qu'on se prive peut-être, de l'aide que Dieu peut nous apporter, ou de l'aide d'un frère, ou de l'aide de l'époux, ou de l'aide de la famille, en fait. Mais donc voilà, après, c'est bon, évidemment, c'est des questions délicates, hein. il n'y a pas de règles, en fait. Voilà.
Laetitia Calmen, on a vu ces différents versets sur le sabbat, sur le repos. Je voudrais qu'on s'arrête sur le suivant, le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu. » L'honneur, c'est un terme hébreu qui indique aussi la gloire, la valeur et la vérité. Est-ce que c'est ça, honorer son père et sa mère? C'est du respect, mais c'est aussi un acte de vérité dans sa relation avec ses parents? Ou est-ce que c'est plus large aussi?
Non, c'est très bien dit. Moi, j'aime bien la façon dont vous traduisez le verbe honorer. Alors effectivement, le verbe hébreu pourrait être traduit par glorifier. Et le verbe glorifier concerne principalement notre relation à Dieu, en fait. Je glorifie Dieu, hein, c'est ce qu'on dit, ce qu'on peut dire habituellement. Donc, qu'est-ce que veut dire honorer son père et sa mère? En fait, j'honore mon père et ma mère lorsque je reçois la vie que Dieu me donne, lorsque je réponds à la vocation qui est la mienne. Donc, c'est en cela que le honore ton père et ta mère découle du sabbat. On a vu que le sabbat était un lieu d'action de grâce. Donc, je reçois ma vie à nouveau de Dieu. J'essaie de l'orienter à sa lumière. D'accord? Donc, je suis non seulement dans une action de grâce, mais je suis dans une relation qui glorifie Dieu. Eh bien, glorifier son père et sa mère, c'est être fidèle. à la personne qu'on est appelé à être. On est bien fils et filles de nos parents, ça, il n'y a aucun doute. Mais on n'est pas que ça. On est une personne voulue pour elle-même. Et il est bon de se le rappeler de temps en temps pour réaliser sa vocation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assister ses parents quand ils en ont besoin, etc. Mais honorer ne veut pas dire que ça non plus, en fait. Honorer, ce qui me permettra d'être vraiment auprès de mes parents quand ils en ont besoin, c'est précisément la réalisation de ma vocation propre. Vous voyez, c'est pas au sens égoïste, hein. C'est la vocation que Dieu me donne. Et parce que je crois qu'il y a un vrai défi. Voilà, on peut parfois voir des personnes qui ont du mal à quitter leur père et leur mère parce qu'ils culpabilisent. Et en fait, je pense que s'il est important d'accompagner nos parents, cet accompagnement ne pourra se faire que si on répond à notre appel personnel, à l'appel que Dieu nous adresse. Donc, honore ton père et ta mère. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on reçoit longue vie, hein, sur la terre.
C'est honorer la vie qu'ils nous ont donnée, en quelque sorte.
Exactement, la vie qu'ils vous ont donnée. Et à travers la vie qu'ils vous ont donnée, en fait, c'est ce qu'on appelle la procréation, en fait, hein. Ce sont des coopérateurs de la création de Dieu. Donc, plus profondément que vos parents, il y a Dieu qui vous donne la vie. Et une manière de réaliser sa vocation correspond à cette réponse, à ce don de Dieu, à l'appel de Dieu. À ce moment-là, je réalise ma vocation. Et à ce moment-là, je pourrai vraiment accompagner mes parents.
Laetitia Calmen, on va arriver à un commandement qui, pour beaucoup, pourrait être en quelque sorte coché rapidement. Voilà un commandement qu'on respecte, c'est assez satisfaisant. Et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans ce commandement? C'est le verset 13, « Tu ne connaîtras pas de meurtre ». Qu'est-ce qui va concerner tout le peuple de Dieu dans ce verset-là?
Oui, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas ». La seule manière de ne pas tuer, parce qu'on peut tuer de différentes manières. Hein, et on peut, alors, il y a l'acte meurtrier en tant que tel, mais je peux aussi tuer quelqu'un dans mon cœur. Je peux tuer quelqu'un par une parole, hein, je peux tuer quelqu'un par une pensée. Donc, enfin, il est bon de reconnaître que parfois, dans notre cœur, on préférait que l'autre ne soit pas, parce qu'il éveille en nous de la jalousie, parce que son attitude nous est insupportable. D'accord ? Et alors, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quel moment ça arrive. Vous savez que quand je donne le cours ici au Bernardin de morale familiale, et donc c'est un cours public, et bon, parfois j'ai des couples qui viennent me voir en disant « mais on est sous tension ». Et la première question que je leur pose, je dis « mais est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ?» Ce qui nous ramène au commandement du sabbat, en fait. Quand on n'est plus dans l'action de grâce par rapport à sa propre vie, par rapport à la vie que Dieu nous donne, le risque, du coup, c'est d'être épuisé, d'être fatigué, d'être face à ses propres limites. Et quand on est face à ses propres limites, l'autre nous exaspère très vite. Les premiers à nous exaspérer, c'est souvent nos parents, parce qu'ils nous collent à la peau, inévitablement. Et puis l'époux, les enfants, etc. Il y a des moments où, inévitablement, moi j'entends parfois ma sœur me dire « Mais Laetitia, mais, à propos de ma nièce, mais j'ai failli lâcher par la fenêtre ». Voilà. Donc vous voyez que le « tu ne tueras pas », en fait, il est assez large. Et qu'il y a une sagesse biblique qui dit ben, « si je suis tentée par ça, là, peut-être que la question que je dois me poser, c'est « est-ce que je ne suis pas trop fatiguée ? Est-ce qu'il ne faut pas que je remonte ?» Vous savez, comme dans le jeu de loi, vous savez. Et voilà, on n'arrive plus à avancer dans les commandements. Ben, faut peut-être retourner en arrière. On fait deux cases en arrière, on se dit ben, « effectivement, je suis épuisée ». Je sais que, en fait, les tensions viennent, souvent, hein, les tensions relationnelles viennent de là. Hein. Donc, voilà.
Donc, un appel au repos. On comprend aussi, en vous écoutant, qu'il y a un ordre, hein, dans les commandements et que.
Et qu'il y a une logique,
ça,
en fait.
Il y a une logique et ça se déroule. Laetitia Calmen, le verset 14, tu ne commettras pas d'adultère, donc un appel direct à la fidélité.
Il est beau que ce commandement s'inscrive, en fait, dans l'appel à la fidélité de Dieu. Hein, on a commencé, dans notre commentaire au commandement, par rappeler qu'il ne faut pas idolâtrer. En fait, c'est la fidélité à Dieu qui va m'aider, c'est la foi en Dieu qui m'aidera aussi à être fidèle à mon prochain. Alors, l'adultère, quand Jésus décrit le commandement d'adultère, il dit, mais si tu regardes une femme, et il ajoute, pour la désirer, en fait. Le problème, c'est pour la désirer. Ça veut dire que je mets ma main sur elle, en fait. Je veux la posséder, je veux l'utiliser, je veux l'enfermer dans mon désir, en fait. Et donc, il dit, à ce moment-là, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Alors, il faut être attentif, parce que ça veut pas dire qu'il faut pas regarder les belles réalités. Hein. Et moi, c'est ce que je dis parfois aux séminaristes, mais quand vous regardez une jolie fille, ben, à la place de vous empêcher de regarder, rendez grâce à Dieu, parce que c'est vraiment une jolie fille, en fait. Il faut rendre grâce à Dieu. Si vous resituez la beauté de la création dans la relation à Dieu, ben, vous serez fidèle, en fait. Le problème, c'est quand votre désir se détache de votre fidélité à Dieu, et donc de votre fidélité, si vous êtes marié, à l'époux et à l'épouse, et à ce moment-là, s'égare. Mmh. Évidemment, enfin, dans le cas des séminaristes, ben là, vous êtes dans une situation de célibat pour le royaume, c'est en tout cas le choix que vous posez aujourd'hui par rapport au discernement de votre vocation. Eh bien, évidemment, si vous allez voir la fille et vous allez lui demander d'aller boire un verre, bah, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Si, voilà, il faut pas forcément, enfin, sortir de la fidélité dans laquelle vous êtes engagé, quoi.
En fait, donc, vous êtes en train de nous dire que c'est un style de vie aussi, la fidélité, quelque part.
C'est un style de vie, ouais. J'aimais beaucoup, dans le livre de la promesse, le cardinal Lustiger, en commentant ses commandements et ses commandements négatifs, il disait, la seule manière de ne pas tuer, c'est de donner sa vie. La seule manière de ne pas commettre l'adultère, c'est d'être fidèle. La seule manière de ne pas voler, vous savez, c'est le commandement qui suit, c'est de partager ses biens. Et en fait, on découvre que ces commandements positifs, c'est vraiment la suite du Christ. En fait, les commandements, tels qu'on les a abordés, hein, vraiment à la lettre, à partir de l'Exode et de Deutéronome, nous apprennent fondamentalement qu'on a besoin d'être sauvés. Nos passions, nos sentiments sont tentés par l'égarement tout le temps. Et donc, le problème, c'est que quand on est pris par une passion, eh bien, il faut se battre avec notre volonté pour la resituer dans le cadre de la fidélité. Mais c'est un vrai combat. Comment est-ce qu'on peut mener ce combat, sinon à la lumière d'un amour plus grand, en fait. Et donc là, plus on entre dans le détail des commandements, plus on découvre à quel point ils sont impossibles à accomplir en tant que tels, à quel point on a besoin d'être sauvé par le Verbe fait chair.
Oui, c'est-à-dire vous êtes en train de nous dire que ces commandements ne peuvent pas se réaliser avec uniquement notre propre volonté, en fin de compte. Ces oui, commandements exactement. Nous invitent à forcément accepter le salut.
Exactement, à être en alliance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au début du commentaire, en fait. C'est Dieu qui nous les donne, et il nous les donne pour nous libérer. Si je ne reçois pas ces commandements comme parole de Dieu, mais simplement comme des préceptes, enfin, le risque, c'est que je sois un légaliste, en fait. Je prends la loi pour elle-même. Or, loi et esprit sont liés. Dans quel esprit est-ce que je reçois cette parole? Si je la reçois d'un Dieu qui m'aime à la folie, en fait, jusqu'à donner sa vie, ben, comment ne pas répondre à quelqu'un qui m'aime, vous voyez? Et c'est vraiment l'enjeu des commandements.
Laetitia Calmen, verset 15 de ce livre de l'Exode, on est au chapitre 20. Tu ne commettras pas de vol. Là aussi, on peut comprendre ça comme une question qui concerne la priorité des biens. À quoi sont destinés les biens aussi qu'on peut posséder? Donc à la fois le vol, mais aussi la possession de ce qu'on a. La possession comme responsabilité. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur le vol?
Alors, on peut vraiment être tenté. Il y a le vol direct. Mais par exemple, la personne qui a faim, qui n'est pas en situation, je dirais, de pouvoir manger autrement que de prendre un bien en supposant que le propriétaire soit d'accord, à ce moment-là, je trouve que c'est pas du vol, vous voyez. Il y a une question de justice aussi, en fait. La personne qui est dans le besoin, alors évidemment, elle peut commettre aussi des vols, hein, mais à partir du moment où c'est une question de survie et que dans ce cadre-là, elle considère que celui qui possède ce bien comprendrait, voilà. Je pense que, non, mais vous voyez, il y a une différence. Limite. Je pense qu'en cas de survie, en cas de survie et dans un contexte bien particulier, faut bien situer les choses. En revanche, il peut y avoir le vol direct. Et puis, ce que vous soulignez, effectivement, c'est assez intéressant. La doctrine sociale de l'Église admet la propriété, hein, la propriété privée. On peut posséder des biens. Mais le pape François attire souvent notre attention sur le fait, attention, qu'est-ce qu'on fait de ces biens? La propriété, elle est en vue de la destination universelle. Est-ce que ce que je possède est bénéfique pour la communauté, en fait? Ma manière de... je possède vraiment dans la mesure où je partage. Vous voyez, dans la mesure où je suis libre de permettre à d'autres d'en disposer. Et c'est ça la propriété au sens chrétien. Et donc effectivement, si je suis possessif, presque au sens maladif, on pourrait presque parler de vol, en fait. Ce que je prends en excès, uniquement pour moi-même, j'en prive les autres. Et donc de ce point de vue-là, ce commandement, il nous concerne chacun. On voit comment on est amené, à travers chacun des commandements, à faire un vrai examen de conscience.
On va poursuivre justement avec le verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est une expression qu'on retrouve plutôt dans le langage des tribunaux. En tout cas, l'idée, c'est aussi d'évoquer le mensonge, peut-être les bavardages inutiles. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que c'est aussi la question de la vérité qui est posée ici ?
Oui, oui. Il y a un parallèle entre ce qu'on appelle les deux tables de la loi. On avait vu, en ce qui concerne la relation à Dieu, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu à faux. Et ici, c'est par rapport, quelque part, au nom du prochain. Le prochain qui est créé à l'image de Dieu. Pour qui Jésus a donné sa vie, comment est-ce que je prononce son nom ? Il y a une manière d'aborder la personne en reconnaissant qu'elle est plus grande que mes préjugés. Mmh. Elle est plus grande que l'idée que j'ai d'elle. Et c'est ce qui me fait grandir aussi dans la relation. C'est respecter la personne en tant qu'elle m'échappe, en tant qu'elle est porteuse d'un mystère, en fait. Donc il y a une manière de prononcer le nom. Moi, j'ai toujours impressionné, parce que je prépare des fiancés au mariage, quand le fiancé prononce le nom de la fiancée. Il y a une manière tellement belle de prononcer le nom où vous voyez presque le visage de la personne, en fait. Donc, comment est-ce qu'on se réfère à la réalité ? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup trop vite. On parle trop vite, et puis dans cette manière de parler trop vite, on ne considère plus l'autre. Et pire que ça, on le considère mal. Et on risque de lui faire du mal à cause du mensonge, de la calomnie, etc. Et donc, c'est assez beau que la sagesse divine attire notre attention.
Oui, on aurait pu penser que c'était une sorte de détail, finalement, dans la relation. Ça ne l'est pas. Ça occupe vraiment une place dans ces 10 commandements. Il n'y en a que 10 et il y a celui-ci. Et puis, on va terminer avec ce verset 17 sur la convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme. On a le sentiment qu'on avait déjà évoqué ces questions-là avec l'adultère. On y revient. Pourquoi ?
Alors, la convoitise, c'est l'envie qui peut nous habiter par rapport à ce que l'autre possède. Et donc, on voit comment les commandements révèlent de plus en plus ce qui peut habiter notre cœur. Alors, quand je préparais le cours de morale où j'enseigne les commandements, j'avais eu à l'époque une distraction, parce que c'était autour de Noël. Et à un moment donné, je me dis, mais il va jusque son bœuf et son âne. Et tout à coup, je me suis dit, mais j'ai oublié de mettre la crèche. Et en fait, en réfléchissant à la distraction, je me dis, mais c'est pas tout à fait idiot, parce que la convoitise, qui peut nous en libérer ? Sinon Jésus, qui se donne à convoiter, il se donne à manger en fait, il se donne à toucher, il se donne à voir, il nous rejoint dans nos sens, et donc il vient nous guérir, vous savez, de cette blessure intérieure qui nous habite depuis le péché originel. On a un abîme en nous, et en se donnant lui-même, il vient nous guérir de cela. Il vient nous guérir de cette convoitise.
Il vient occuper la convoitise, vous diriez ? Il vient prendre la place de mauvais désirs, entre guillemets ?
Il vient les combler. Vous savez, quand on est comblé, eh bien, le mauvais désir, il est rendu bon, si vous voulez. Parce que c'est quand même impressionnant. C'est le seul qui va nous donner, en l'occurrence, son père et sa mère, en fait. Donc, on peut convoiter le père et la mère de quelqu'un d'autre, par exemple. Bien, lui, il dit, avant même que vous le convoitiez, moi, je vous les donne. Je vous les donne, c'est ce qu'il fait à la croix par rapport à la Vierge Marie. Et puis, il se donne lui-même, et c'est très intéressant, à manger. Le premier péché a été marqué, en fait, par le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire toute notre humanité, toute notre humanité à travers le manger est marquée par l'abîme du mal, en fait. C'est ça qui nous blesse, c'est ça cette cicatrice. Eh bien, Jésus se donne à manger pour venir nous consoler plus profondément que cet abîme qui nous habite. Et donc, finalement, quand on reçoit tout de Jésus, on n'a plus rien à convoiter.
En tout cas, c'est ce qu'on a compris à travers ces 10 commandements, le décalogue que vous nous avez commenté, Laetitia Calmen. Merci beaucoup, c'était passionnant. Vous êtes docteur en théologie consacré dans le diocèse de Paris. Et puis, on était ici à l'école cathédrale, au collège des Bernardins pour cet entretien. On a entendu un peu les élèves. Vous enseignez aussi auprès d'eux.
Merci beaucoup, Madeleine. Merci à chacun.
Merci à vous et bonne semaine.